Sur la mort, qui nous dit mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de tristesse. La tête de l'Ecclésiaste, je l'ai vu, je suis en train de tourner la page de la dame, je suis tombé dessus très rapidement, je l'ai lu, je suis allé sur mon passage, et puis l'après-midi, j'ai appris le décès de cette amie. Donc, alimenter cette période du mois d'août. Voilà, tout ce que nous avons traversé. Et je vais souhaiter parler de la mort, de l'éternité, du retour de Christ. Et puis, cette question qu'on a tous dans la tête, mais où va-t-on ? Qui là-haut ? Pourquoi les uns vont avec Dieu et pourquoi les autres seront séparés de Dieu? Comment cela va se produire? Donc, ce n'est pas des réponses que je vous apporte. Il y a plein de textes qui en parlent et le texte c'est assez complexe, c'est riche. C'est complexe. Il y a des réponses que je donne, il y a aussi des orientations que je donne, mais voilà. Proposer ces textes et les mettre en réflexion sur ces questions-là. Je ne veux pas lancer de débat, mais simplement que tous ces textes en fait, alimentent notre question, notre cœur et nous préparent. Il y a cette voie royale dont Pierre, tu as parlé ce matin, qui est une respiration, qui est un texte lumineux, la grâce dans Jean 3. À partir du verset 14, c'est Jésus qui parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque en lui ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est beau parce que c'est Jésus qui parle alors qu'il est sur terre, qu'il n'est pas encore mort, qu'il n'est pas encore ressuscité. Et il est en train, en fait, de projeter les personnes autour de lui à ce qui va se passer, à ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez comme vraiment c'est l'intention de Dieu que personne perde et qu'en Christ, c'est possible. Ce qui est subtil aussi, c'est que Dieu, oui, il va juger, mais il va juger parce que le monde est déjà jugé, parce que l'être humain est détourné de Dieu très tôt. Et qu'on se détourne de Dieu, on ne le cherche pas parce que alors qu'il est là et qu'il attend qu'on le cherche, il a tout fait pour nous sauver. Et l'être humain est déjà jugé du fait de ne pas chercher Dieu, du fait de s'être rebellé contre lui. Et l'intention de Dieu est de nous sauver. Et il pense tout, l'éternel. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout s'arrive à la repentance. C'est un nouveau mot qui est là. C'est ce que Dieu attend, chacun d'entre nous. Se repentir de quoi? Et être jugé de quoi? De quoi serons-nous jugés? Quand nous serons devant Dieu et qu'il séparera. Avant de s'attaquer à ce passage-là. Dans un premier temps, c'est intéressant d'imaginer un monde où il n'y a pas eu la grâce, un monde où le Christ n'est pas venu sauver. Et du coup, Dieu dit que le jugement arrivera sur terre. Et donc, il va arriver sur des critères. Quels sont ces critères ? Toutefois, heureusement, il y a la grâce qui est là et qui permet à ceux qui cherchent Dieu, bien Dieu vient les chercher. Et c'est d'ailleurs celui, le premier qui vient nous chercher, et il attend qu'on fasse le deuxième. Il a tout préparé pour ça. Mais, s'il n'y avait pas ce plan de salut, sur quoi se vous jugez? Parce que nous allons tous rencontrer Dieu face à nous. Quand ce sera la fin, quand il aura décidé, et il est patient, passons jusqu'à ce moment-là. Et on voit qu'il a une patience et une bienveillance constante, constamment, et pour les peuples aussi avant le Christ, parce que ces peuples-là, ils n'ont pas rencontré le Christ, ils n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer, et c'est super intéressant de voir ce que Jésus en a tué, parle. À la foule, et il dit ceci. Il se mit à faire les reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce que ces villes n'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaida! Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous.
toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement. C'est de la grâce et de la bienveillance. L'Éternel et le Christ est en train de regarder une population, une génération qui n'est plus là, qui est déjà morte, où les dés sont déjà jetés, à la lumière du fait que si le Christ a passé dans ces villes, si ces villes avaient été à cette époque-là, eh bien, il se serait repenti. Et donc, quand ils disent qu'ils seront jugés moins rigoureusement, ça veut dire quoi? C'est la même chose, en fait, s'il y a l'enfer et le paradis, jugés moins rigoureusement, ça veut dire quoi? Il y a des endroits intermédiaires où on peut. Donc, ça veut dire que dans ces villes, il y aura des personnes qui, du coup, seront regardées avec ce regard du salut. Il y aura sûrement des personnes qui seront sauvées. Par grâce, parce que l'Éternel a détecté l'esprit de repentance. Des personnes qui, voilà, ont alimenté cet esprit de repentance. Donc c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui étaient avant l'arrivée. Et il y a plusieurs textes qui appuient cette idée. Pierre 3, 18 à 21, très surprenant. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, l'une juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Pas une prison de fer, de barre de fer. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Encore ce mot, la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, ça date, hein, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement du bon conscience envers et qui maintenant nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. La patience de Dieu se prolongeait autrefois. Et, on vient un petit peu en arrière, il est allé prêcher aux esprits. Jésus, quand il est mort, est allé dans le séjour de l'homme des morts et il a prêché. Il a pris en compte aussi cette population. Alors, c'est un grand mystère, je ne veux pas faire de théologie, je ne veux pas dire qui a été sauvé, si nature a été sauvé, etc. Enfin, c'est chacun notre réflexion. Mais il y a eu un acte, d'aller dans le séjour des morts. Et Dieu prend en compte cette situation. Avec un mot-clé. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, sur quoi Dieu va juger? S'il n'y avait pas grâce, s'il n'y avait pas le salut immérité qu'on ne mérite pas. Il y a bien plusieurs textes qui parlent de ce jugement. Par exemple, genre, je ne vais pas vous les montrer, je vais vous les lire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. De même, Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 25, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus qui parle. C'est perturbant, parce que c'est annoncé, c'est la grâce, c'est seule la grâce qui sauve. C'est perturbant parce que Romains 3 nous dit que tous sont pécheurs, que nul ne fait le bien, nul ne cherche Dieu. Donc, pourquoi sommes-nous jugés sur le bien et sur le mal, alors que beaucoup de textes nous disent que tous sont pécheurs? Donc, cette idée que l'équilibre entre le fait que j'ai fait plus de bien que de mal va me permettre d'aller au ciel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et lui dit ça ne marche pas. Toutefois, Jésus nous attire à ça. On s'attire à attention, il y a le mal, il y a le bien. Cherche le bien. Cherche le bien. Parce que c'est là-dessus que les hommes seront jugés. Alors comment est-ce qu'on gère ça, le fait qu'on est tous pécheurs et que de toute façon, quel que soit le bien qu'on va faire, on n'y arrivera pas parce qu'on est tous pécheurs et qu'on sera quand même jugés par le bien et par le mal. Ouais, comment on fait ça finalement? Est-ce que c'est contradictoire ces textes? Et il y a un texte qui est magnifique, c'est dans Proverbes 2, verset 15. Quand les païens, donc les païens, ce sont les personnes qui, du coup, ne sont pas en relation avec Dieu, ne croient pas en Dieu, quand les païens ne font pas la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, mais une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée en s'accusant, en se défendant tour à tour. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même quelqu'un qui ne veut pas écouter la loi de Dieu, eh bien, il a une loi dans son cœur. Et cette loi montre qu'il y a quelque chose en lui. Cette conscience. Tantôt l'accuse et tantôt le défend. Et donc on s'approche de quelque chose, du bien et du mal, qui finalement est rattaché à la conscience. Et c'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'évangile de Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'Éternel nous demande pas seulement d'obéir à des lois, de dire je vais essayer de faire plus le bien que le mal, etc., et de compter tout ça, de chercher l'équilibre, c'est d'agir avec. Et il observe le monde et comment la conscience est utilisée. Vous savez, c'est très important. Parce que on peut se dire, mais moi je ne fais pas le mal. Ouais, on peut se dire ça. Moi je ne fais pas le mal. Tu regardes, quand est-ce que j'ai vraiment fait le mal? Et c'est ce qui est subtil. Je vais vous donner quelques exemples. Quelqu'un qui est en prison pendant 20 ans, eh bien, il n'a plus l'occasion de faire le mal. Et on pourrait dire, bah, regardez, pendant 20 ans, il n'a pas fait le mal. Ben oui, c'est normal. Il est contraint, les barreaux ne peuvent plus faire le mal. Ce que Dieu voit, c'est sa conscience. Ce que Dieu voit, c'est que si on le sort de prison, est-ce qu'il va vouloir faire le mal parce qu'elle peut le faire ou pas? La contrainte extérieure l'empêche de faire le mal, donc on ne peut pas le dire, ah bah oui, il n'a pas fait mal pendant longtemps, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas savoir. C'est ça que Dieu déteste. Cette conscience intérieure. C'est pareil, je suis dans un environnement où j'ai vécu, allez, on va dire, dans un village préservé, où il n'y a pas eu de demande culturelle, de difficulté, etc., où mes parents ont des finances, ça tourne, ils m'ont éduqué, etc. Ça, c'est mon éducation, c'est ce que j'ai reçu. Par contre, si je suis né dans un village où du coup, c'est la loi du homme, la main sur ma plaie. Alors, peu importe, la loi du plus fort, oui, pourquoi pas, c'est pas ça, mais pourquoi pas. Et j'ai lu ce bouquin, parce que tu peux montrer si tout le monde est juste à côté de toi. Tu es dans un village, je ne sais pas si vous connaissez, où là, la femme n'a aucune liberté. L'homme est mis en valeur, en puissance. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui explique que sa vie, c'est tous les jours être battue parce qu'elle est une fille. Parce que si elle prend la tomate verte alors qu'elle a pris 100 tomates rouges, elle vient d'une être battue, flottée. Elle n'a pas d'autre droit de regarder quelqu'un dans les yeux. C'est sa loi, c'est ce qu'elle a appris. Et elle s'y tient. Et elle s'y tient. Et s'il y a trop de filles dans cette famille, eh bien la maman, quand elle voit une fille arriver, alors que c'est peut-être la troisième ou quatrième, eh bien, elle fait disparaître la fille. Parce qu'il faut un homme, il faut un garçon qui fait la fierté du village. Et cette fille raconte très bien dans ce livre que c'était ça qui était tracé, qu'il n'y avait rien d'autre, qu'elle ne connaissait rien d'autre. Elle dit, mais moi, si j'avais grandi, si j'étais marié, j'aurais fait la même chose. Pourquoi j'aurais fait autrement? On fait ça depuis des générations, des générations, des générations. Voyez-vous? Donc, il y a là où nous baissons ce que nous recevons, qui font de nous ce que nous avons avec notre éducation. Et il y a notre conscience à nous. Ce que nous sommes, nous. C'est différent. Et ce n'est pas parce que je ne fais pas le mal que je peux dire, ouais, moi, je n'ai pas fait le mal. Ouais, non. Reconnais que tu as reçu quelque chose qui est porteur pour toi. Ou quand est-ce que tu vas réaliser que tu vis dans un contexte où on s'entretue, que tu viens en prendre conscience, et comment? Donc, cette notion de bien et de mal est une notion qui ne suffit pas à elle seule. Et Dieu voit en arrière-plan la conscience de chacun d'entre nous. Alors voici l'Éternel. Il sait que fondamentalement, depuis que l'être humain s'est détourné, depuis que Adam et Ève ont eu un péché d'orgueil de vouloir être égal de Dieu, de ne plus être soumis à Dieu par la désobéissance et surtout pour être puissant comme nous. Lisez la Genèse si vous ne connaissez pas. Eh bien, l'être humain est pécheur. Sa tendance, si Dieu n'était pas là dans notre culture, en société, pour trouver des équilibres, sa tendance est de faire le mal. Et heureusement, dès que d'autres conditions externes sont là pour nous empêcher de prendre ce chemin. Ne nous croyons pas plus forts que nous sommes en réalité. Nous ne nous croyons pas meilleurs que les autres. Parce que moi, je n'ai pas fait ci. Parce que moi, j'ai fait ça. Ah, mais moi, si j'étais eux, je n'aurais pas fait ci, je n'aurais pas fait ça. C'est là où l'Éternel, et c'est là où le Christ attend de nous que l'humilité procurée. Et moi, est-ce que j'aurais été mieux que lui si j'avais dans cette situation? Regardez cette prétention de Pierre quand Jésus va mourir et qu'il dit « Je vais mourir ». Et Pierre dit, mais moi je me battrai avec toi, jusqu'au bout, je mourrai avec toi. Ah, prétention. Et Jésus lui dit, mais tu vas me trahir. Mais non, je ne vais pas te trahir. Mais si, tu vas me trahir. Pourquoi? Parce que Jésus, tu vois notre fragilité. Et voyez ce proverbe. Chapitre 30, versets 8 à 9. Magnifique. Il n'est pas de Salomon. Vous ne pourrez pas me dire d'ailleurs ce passage. Proverbe d'Agur, verset 8 à 9. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la face, la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui me nourrit. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et que je me dise, mais qui est l'Éternel? Et que, dans la pauvreté, je me dérobe et ne m'attaque au moment de Dieu. Ça, c'est la clé. C'est la clé. C'est une personne qui connaît ses limites. Une personne qui dit, mais... Mets-moi les conditions extérieures pour que moi qui intérieurement je sens que si je vais avoir la richesse, je vais t'oublier. Je sens que si je vais avoir la pauvreté, donc s'il te plaît, je connais ma nature humaine. J'en ai conscience. J'en ai conscience et donc éloigne de moi ça. Et ça, c'est fort. Parce que c'est une compréhension de ce que nous sommes. Et pas du droit, de toute façon, vas-y, tu peux donner la richesse, la pauvreté, de toute façon, je te suivrai toujours. L'humilité, un esprit de l'humilité. Voilà ce que l'Éternel détecte, cherche, fouille partout. Pour des générations qui n'ont pas forcément connu Dieu, pour des peuples qui n'ont pas forcément connu Dieu, pour cette petite jeune fille dans un village où c'est impossible d'entendre parler de la grâce, eh bien, voilà peut-être ce qu'il va détecter, chercher un esprit reconnaissant, une conscience qui s'éveille petit à petit, où l'Éternel pourrait dire, mais si le Christ était là, s'il avait entendu parler de la parole, je sens cette conscience, je sens cette repentance, cet esprit de repentance, c'est ça que je veux. Excusez-moi, vous pouvez me mettre d'accord, je ne suis pas en train de dire, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, à travers ces textes, je m'éveille à comment l'Éternel dit lui-même, je suis patient, je veux que tout le monde soit sauvé. Mais c'est lié à notre conscience. Ainsi, voilà des textes qui pourraient, a priori, se contredire, mais qui ne se contredisent pas. L'Éternel voit tout. Et surtout, il a tout fait. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, écoutez bien, la loi croit en Dieu. La question n'est pas de vouloir faire le bien plus que le mal, et de dire, oh oui, bah, je vais essayer de faire le bien. Non, maintenant vous savez, la voie la plus directe, l'Éternel Dieu comme l'a compris le printemps quelques minutes avant sa mort. Il attendait. Que nous regardions. Oui, je suis conscient. Oui, je me repens. Et oui, Christ est Seigneur. Si ce que je vous dis là est vrai, eh bien, vous allez vous rencontrer avec lui. Vous pouvez vous rencontrer, cherchez-le, parce qu'il n'y a rien d'autre à chercher. Il y a comprendre cette grâce. Et quand on a pris cette grâce, ensuite, eh bien, quand on est sauvé, ça y est, je suis sauvé, ça y est, je suis relié à Dieu, eh bien, Dieu nous donne par son esprit la capacité de faire le bien, la capacité de développer ma conscience par son esprit, la capacité de dire pardon chaque jour, la capacité de pardonner chaque jour. Et c'est lui qui fait ce travail ensuite. Vous voyez ? Je voudrais aussi parler, pour terminer, à l'assemblée de chrétiens. C'est vraiment une belle nouvelle. Elle est simple à comprendre. Elle peut mettre du temps à ce qu'elle chemine dans les cœurs. Et comme le brigand, c'est peut-être dans les dernières heures de nos vies que nous faisons ce choix. Si nous avons entendu. Peut-être dans les dernières minutes, on sait que les dernières secondes, c'est toute notre vie qui défile. Il y en a qui témoignent de ça. Et du coup, il y a tout qui défile. Est-ce que ces dernières secondes permettent à des personnes de dire « Tiens, mais oui, c'est le Christ, mais oui, je dis pardon. » La conscience peut durer quelques secondes. J'en sais rien, je ne dis pas que c'est le cas. Hein. J'en sais rien. Mais tous ces mystères-là sont entre les mains de Dieu et de la personne. Partageons la bonne nouvelle. Parce qu'un jour ou l'autre, elle peut faire son chemin. Recevez la bonne nouvelle. C'est le chemin